On va juste faire une courte prière avant d'entrer dans le sujet. Père éternel, nous voulons te dire merci pour tout le week-end. Tu as répondu à toutes nos prières au-delà de nos attentes. Merci pour cette belle température que nous avons, dont nous avons pu profiter tout au cours du week-end pour être et à l'intérieur et à l'extérieur. Merci pour la connaissance qui a augmenté, pour la fraternité qui s'est tissée, Seigneur. Nous te prions de te manifester parmi nous à l'instant même, par ton Saint-Esprit, parce que tu as encore des messages pour nous. Et Seigneur éternel, oui, nous avons reçu beaucoup d'informations. Ma prière est que, Seigneur, tout un chacun a trouvé quelque chose pour lui, pour affermir sa foi dans ta parole. Et que dans les jours et les semaines qui suivent, nous puissions digérer toutes ces choses-là et commencer une nouvelle étape de notre marche avec toi dans l'étude de ta parole. Seigneur, aide-moi à arranger mes idées pour que ce soit le plus logique possible, pour qu'on puisse voir à quel point tu es le Dieu qui contrôle l'histoire. Merci pour tout. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, ce matin, la présentation va être vraiment plus une dimension, on va dire, historique. Mais ce qui est bien, c'est que comme on a étudié la Bible beaucoup hier, ça va être des choses que maintenant, vous allez pouvoir faire des liens. Que vous soyez familier ou pas avec les prophéties, mais vous avez entendu les mêmes choses sous plusieurs aspects. Et là, vous allez encore les entendre sous un autre aspect, vraiment plus la dimension historique. Et j'ai intitulé ma présentation « Il vient » parce que comme Gabriel l'avait dit quand on a ouvert le programme vendredi, un des points fondamentaux du mouvement adventiste du septième jour, c'est qu'on attend la venue, le retour de Jésus-Christ. Et ce qu'on va voir, en fait, c'est que on va voir l'histoire avant que le mouvement adventiste du septième jour existe. Il y a eu ce qu'on a appelé le mouvement adventiste. Et ce mouvement est le résultat d'un grand réveil religieux. Et ce qu'on va étudier, en fait, ce sont, je dirais, les événements déclencheurs du mouvement adventiste. Donc, c'est tout ce qui s'est passé pour mener vers 1844, qui n'est pas une date qui est apparue comme ça. Et d'ailleurs, c'est pas nécessairement sur cette date-là que je vais mettre l'emphase, mais on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Et j'espère vraiment qu'à la fin de cette présentation, vous serez convaincus que le mouvement adventiste est un mouvement de destinée, c'est un mouvement prophétique. Parce que beaucoup de personnes doutent de cela. Mais vous l'avez entendu beaucoup, mais j'espère qu'après cette présentation, vous allez voir vraiment que la façon dont les événements se sont orchestrés, ça peut pas être sous la puissance d'un homme. Ça doit avoir une origine divine. Première question. Nous, on attend le retour de Jésus. Donc, si on attend son retour, ça implique quoi? Qu'il est déjà venu. Il est venu une première fois. Et lorsqu'il est venu une première fois, il avait quelqu'un pour préparer sa venue. C'était? Et on sait que Jean-Baptiste a été prophétisé. On a prophétisé sur sa venue, que ce serait lui qui allait. Quel était le but de l'existence? Pourquoi Jean-Baptiste est venu dans ce monde? Pour quelle mission? Préparer la route. Son rôle, c'était de préparer la venue du Messie. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre que le Seigneur, s'il a pris le temps d'avoir un véhicule pour préparer sa première venue, qu'il en ait un pour préparer sa deuxième? Oui. Donc, c'est ce qu'on va voir un petit peu. Si on regarde la première venue de Jésus à travers le ministère de Jean-Baptiste, on peut voir plusieurs points. Premièrement, en parlant de Jean-Baptiste et son ministère, c'est que son existence et son ministère s'avéraient l'accomplissement d'une prophétie. Ésaïe a prophétisé sur lui en parlant de la voix qui crie dans le désert. Et dans Malachie, on entend que voici, je vous enverrai Élie qui avant le jour redoutable. Et plus tard, Jésus va dire, quand on lui demandait qui était Jean-Baptiste, il dit, c'est l'Élie qui devait venir. Donc, son existence, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Sa mission, c'était de préparer la venue du Messie, comme on l'a dit. L'étude des prophéties de Daniel l'ont convaincu de la proximité de la venue de Jésus. Il a étudié les prophéties, il savait qu'il était appelé à préparer le chemin du Messie, mais il étudiait les prophéties, et notamment la prophétie des 70 semaines qui situe quand est-ce que le ministère de Jésus et sa mort vont arriver. Et puisqu'il étudiait ça, il a vu que c'était proche. Donc, il redoublait d'ardeur dans l'étude et dans l'attente parce qu'en étudiant ces prophéties, et on a vu que justement c'était une prophétie de temps, qu'il y avait un moment et qu'on approchait de ce moment-là. De la même manière que Daniel, en étudiant le livre de Jérémie, avait vu qu'il devait s'écouler 70 ans pour la captivité d'Israël et qu'il était arrivé à terme. Donc, c'est la même chose. Son message, c'était un message de repentance et de préparation. Sa marque distinctive de Jean-Baptiste, c'était de dire toute la vérité au sujet de Jésus et de sa mission. Dans Jean 10, 41, on rend ce témoignage de Jean-Baptiste. Cet homme n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit de Jésus était vrai. Donc, c'était sa marque distinctive. Et finalement, Jean-Baptiste indiquait clairement au peuple où se trouve Jésus dans le sanctuaire céleste et ce qu'il y fait. Ce que j'entends par là, c'est que lorsque Jésus va arriver, Jean-Baptiste va faire une déclaration. Qu'est-ce qu'il dit en voyant Jésus arriver? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'était pas gratuit, ça. En disant ça, il faisait référence au système du sanctuaire. C'est-à-dire que ça, c'est une image du sanctuaire. Et le sanctuaire était fait de trois parties. Il y avait la cour intérieure dans laquelle il y avait ce qu'on appelait le parvis. À l'intérieur, il y avait deux compartiments, le lieu saint et le lieu très saint. Et l'autel des sacrifices se trouvait dans le parvis. Donc, puisque Jésus est mort sur la terre représente le parvis du sanctuaire céleste. De la même manière que dans le sanctuaire terrestre, c'est dans le parvis qu'on faisait le sacrifice des animaux. Maintenant, si on regarde la deuxième venue de Jésus, mais vue au travers du ministère de l'Église adventiste du septième jour. Premièrement, l'existence de ce mouvement s'avère l'accomplissement d'une prophétie. Deuxièmement, sa mission est de préparer la venue du Messie. Aussi, l'étude des prophéties du livre de Daniel les ont convaincus de la proximité de la venue de Jésus. Également, le message de l'Église adventiste est un message de repentance et de préparation. Également, la marque distinctive de l'Église adventiste est de dire toute la vérité au sujet de Jésus et de sa mission. Et finalement, le mouvement doit indiquer clairement au peuple où se trouve Jésus dans le sanctuaire céleste et ce qu'il y fait. C'est-à-dire que là, présentement, il n'est plus à l'autel des sacrifices, mais à partir du moment où on a proclamé le message, et surtout lorsque on a eu la compréhension de l'événement spécial qui est arrivé, on a compris que Jésus était maintenant notre intercesseur dans le lieu très saint. Alors, c'est pour ça que je vais vous parler un petit peu des éléments déclencheurs de ce grand réveil adventiste. Et ce qu'on va voir, c'est que justement la chute du système papal romain a entraîné un renouveau de la liberté religieuse. Le renouveau de la liberté religieuse a entraîné l'accessibilité de la Bible. L'accessibilité de la Bible a entraîné la compréhension de la Bible. Et la compréhension de la Bible a entraîné la proclamation de l'Évangile. Alors, comme on a vu à travers les différentes études, l'Église protestante a connu des années de persécution, plus précisément 1260 années, qui se sont étalées de 538 à 1798. Et ça, vous pouvez découvrir ça en lisant Daniel 7, verset 25, Apocalypse 11, 2 et 3, Apocalypse 12, verset 6 et 4, où on fait référence à des périodes de temps, un temps, des temps, la moitié d'un temps, 42 mois, 1260 jours. C'est les mêmes périodes de temps quand on comprend comment interpréter les prophéties avec le principe d'un jour prophétique égale une année littérale.
Question.
Oui.
En fait, qu'est-ce qui s'est passé en 538? C'est quoi l'événement?
En fait, ce qui est arrivé, je n'entre pas dans les détails dans cette présentation, c'est que en 538, le pouvoir romain existait déjà, religieux. Mais en 538, Rome a reçu, ou plutôt la papauté a reçu officiellement un pouvoir politique. C'est-à-dire qu'il n'exerçait plus seulement dans la religion, mais il était capable, par exemple, quand il y avait ce qu'on appelait des hérétiques, de pouvoir les juger et les punir. Mais on sait que c'est quelque chose qui appartenait au pouvoir séculier avant. Rappelez-vous Jésus. Les Juifs voulaient le tuer. Mais ils ont dit, il ne nous est pas permis, notre loi ne nous permet pas de le mettre à mort. Donc, ils sont tournés vers Ponce Pilate pour pouvoir condamner Jésus et l'exécuter. Ce n'est pas les Juifs qui l'ont fait. Constantin, c'est pas à ce moment-là, c'est pas sous Constantin. Constantin, ce qui est arrivé, c'est que lui, il a fait transférer le jour du repos du samedi au dimanche.
En 321?
Oui, en 321. Mais ce qui est arrivé par la suite, c'est que le pouvoir religieux a reçu aussi un pouvoir politique de juger et de condamner. C'est pour ça que l'Église pouvait prononcer des jugements et envoyer des gens au bûcher. Mais avant, le pouvoir religieux et le pouvoir exécutif s'étaient séparés. Donc en 538, c'est là qu'ils ont reçu cette capacité, parce que justement, ça faisait longtemps qu'ils étaient contre les hérétiques, ça a commencé depuis longtemps, mais ils n'avaient pas le pouvoir officiel de déposer des jugements. Mais à partir de 538, ils l'ont eu. Et une des choses qui s'est beaucoup passée pendant ces 1260 années de persécution, c'est par exemple les croisades. Les croisades, ça a commencé comme ça. Ce qui se passait, c'est que à l'époque, Jérusalem était entre les mains des musulmans. Et là, l'Église voulait reprendre ce territoire saint. Parce qu'il s'était passé plusieurs choses. Ils avaient vécu différents types de choses. Ils avaient vu ça comme des jugements de Dieu, parce qu'ils n'allaient plus en pèlerinage autant qu'ils avaient l'habitude d'aller, et que peut-être parce qu'on avait comme volé la Terre Sainte, il fallait la reprendre. Alors, les croisades ont commencé pour pouvoir aller reprendre le territoire de Jérusalem aux musulmans. Alors, ça a donné ce qu'on appelle des croisades. Et pour encourager les gens à aller dans les croisades, on vendait des indulgences, ou plutôt on vendait le salut. C'est-à-dire, si tu vas en croisade, tous tes péchés vont être pardonnés, tu vas être purgé parce que tu vas être racheté. Alors, ça encourageait beaucoup de gens qui avaient leur conscience à soulager, sont entrés dans les croisades. Et on les appelait les croisés, puis ils sont partis justement. Et puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on utilise le mot croisade, quand on fait des campagnes d'évangélisation, ben, ça tire son origine de là. Et ça a donné naissance notamment à l'Inquisition. Alors, ça a commencé comme plutôt une guerre pour aller reprendre le territoire des mains des musulmans. Mais comme il y avait des gens qui prônaient d'étudier la Bible et la Bible seule, et en prônant ça, pointaient des erreurs que l'Église avait vendues au peuple, ça dérangeait l'Église officielle. Et tandis qu'elle faisait aussi ses croisades, elle a aussi commencé à aller contre tous ceux, finalement, qui représentaient l'ennemi, donc qui n'étaient pas en accord avec leur doctrine. Et c'est comme ça que les croisades ont commencé. Donc ça, c'est des images qui représentent ces fameuses croisades, où est-ce qu'au nom de Dieu, ils allaient reconquérir les territoires. Puis on voit que ça se passe encore aujourd'hui, par exemple, quand on voit ce qu'on appelle, je pense, la djihad, la guerre sainte, ça tire les origines de ça. C'est vraiment des territoires qu'on essaie de conquérir, mais ça devient ensuite des guerres de religion. Oui, l'Inquisition, c'était un pouvoir politico-religieux. Donc, si tu étais suspecté de tenir des doctrines contraires à celles de l'Église officielle, on pouvait aller chez toi, t'investiguer, te juger et te punir. Donc, si, par exemple, il y a une époque où c'était interdit de lire la Bible, pour dire, mais moi, on connaît des gens qui ont une Bible chez eux, puis ils enseignent des choses dedans, ça détourne le peuple de la vraie foi, qui était la foi mainstream, c'est-à-dire catholique romaine. À ce moment-là, c'est comme si, au nom de Dieu, il faut étouffer ça. Donc, on allait après ces gens-là. Donc, on allait chez les gens pour brûler leur Bible, pour il y a des gens qui se faisaient délater, etc. Donc, il y a eu, par exemple, l'Inquisition espagnole. Il y a eu plusieurs inquisitions. Et vous devez savoir que l'Inquisition, en tant que telle, elle a cessé dans plusieurs pays, mais dans l'Église catholique romaine, elle a changé de nom. Je pense que c'est quelque chose comme le mouvement pour la doctrine de la foi. Et donc, c'est quelque chose qui n'a pas été aboli. Il n'y a plus de croisade, mais il y a encore des gens qui sont là pour protéger la doctrine. Et puis, la dernière personne qui était le responsable de ce qui s'appelle la doctrine de la foi, je vous dis ça sous toute réserve, c'était le cardinal Ratzinger, qui est maintenant Benoît XVI. Et ce qui est arrivé aussi, c'est que c'est un pouvoir qui était indisputé, mais la réforme protestante va apporter la première blessure au pouvoir romain, va commencer à affaiblir son pouvoir. Donc, on parle de la réforme protestante au 15e siècle. Il y avait déjà des choses qui sont passées avant. Par exemple, avec Wycliffe qui avait traduit pour la première fois la Bible en anglais, Jean Hus et Jérôme qui avaient reçu les enseignements de Wycliffe et qui les propageaient, etc., etc. Donc, il y avait déjà des persécutions et tout, mais la réforme a vraiment pris de l'ampleur sous Luther lorsqu'il est arrivé. Et on sait que la réforme a atteint plusieurs pays. La réforme est rentrée dans beaucoup de pays. Cependant, il y a des pays qui ont fait la guerre à la réforme. Et Abou nous en a parlé lorsqu'il nous a parlé de l'ordre des Jésuites, qui a été créé pour étouffer la réforme en Europe. Et il y a un pays en Europe, parmi tous les pays, qui a vraiment fait la guerre au protestantisme et qui n'a pas reçu si on veut dire la réforme. Par exemple, tu as des pays comme l'Allemagne, comme la Suisse, qui ont été favorables à la réforme, qui ont été des bassins de la réforme. Mais il y a un pays, la France, qui a vraiment été opposé. Et comment elle a été opposée? C'est parce que le clergé de l'époque faisait peur à la noblesse et à la royauté, disant que si vous laissez ces gens-là, en parlant des protestants, proclamer leur doctrine, ce qu'ils veulent en fait là, c'est renverser le gouvernement, un peu comme Jésus. Ils accusaient Jésus de vouloir renverser le gouvernement romain. Puis c'est en excitant justement ça que les Romains ont dit « Ok, on va le condamner ». Mais ils faisaient un petit peu la même chose. Donc, ils les mettaient en garde. Faites attention, leurs doctrines sont dangereuses. Ils ont l'air doux et tout, mais ils sont vraiment là. Là, ce qu'il y a vraiment derrière le protestantisme, c'est qu'ils veulent renverser le gouvernement établi. Et ça, ça fait peur à la royauté. Donc, ils ont combattu le protestantisme. Et ça finit par aboutir à la fin, à la Révolution française. Mais on va voir un petit peu comment ça a commencé. Donc, la Révolution française, en fait, c'est le résultat du rejet de la vérité lors du grand mouvement de réforme. Donc, la réforme qui a commencé dans les années 1500, dans le 16e siècle, a été rejetée et rejetée. Et ce rejet constant va finir par aboutir 250 ans plus tard à la Révolution française. Il y avait des gens lors de la réforme comme Lefebvre d'Étaples, Guillaume Farel et Jean Calvin qui ont propagé la réforme en France, mais ils ont été très persécutés. Et il y a eu des grandes persécutions à l'époque du début de la réforme, notamment en France, notamment ce qu'on appelle le massacre de la Saint-Barthélemy. Ce qui est arrivé, c'est que justement, par peur de perdre du pouvoir, etc., puis excités par les évêques et tout ça, qui disaient « vous devez protéger votre royaume et tout ça, ils sont là pour vous détruire », il y a eu une décision qui a été prise par les rois qu'il fallait étouffer la réforme. Et pour étouffer la réforme, on va aller toucher la tête. Donc, on va aller comme tuer, si vous voulez, ceux qui sont à la tête du mouvement, puis ça va étouffer la réforme. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'en allant faire ça, ça a commencé comme ça, mais ça s'est étendu bien au-delà de la ville principale, même dans les campagnes. Puis, il y a eu un grand massacre qui est devenu un massacre, finalement, des chrétiens généralisés, qui étaient protestants. Et puis, ce qui est arrivé, comme il y avait ce massacre-là, quand il y a de la persécution, il y en a qui meurent, il y en a d'autres qui vont se mettre à fuir. Et c'est ce qui est arrivé. Beaucoup de personnes protestantes, chrétiennes, ont commencé à fuir la France dans des pays de refuge comme la Suisse. Puis ça a eu des conséquences. Puis on va voir pourquoi, comment ça va justement faire une chaîne d'événements qui va conduire à la Révolution française. Une des conséquences de la fuite de ces gens-là, ça nous dit ceci. Et ça, c'est extrait du meilleur commentaire biblique sur l'histoire de l'Église chrétienne, la tragédie des siècles. Mais ce sont des faits historiques aussi. On nous dit, il n'y eut peut-être pas une génération de Français au cours de cette longue période de la Réforme qui ne fut témoin de la fuite éperdue des disciples de l'Évangile devant la fureur de leurs persécuteurs. En portant avec eux leur art et leur industrie dans lequel ils excellaient généralement, leur intelligence et leur esprit d'ordre, ils allèrent, au détriment de la France, enrichir les pays qui leur donnaient asile. Donc, ce qui est arrivé, c'est que ces gens-là, parce qu'on sait que la parole de Dieu rend intelligent, donc souvent, vous allez voir que les pays les plus évolués, les plus avancés, sont des pays qui, à un moment donné ou un autre, ont accepté l'Évangile. Et là, justement, quand ces chrétiens sincères sont partis avec leur intelligence, leur art, leur esprit d'ordre, du travail bien fait, d'honnêteté qui est basé sur les principes de la Bible, sont allés enrichir d'autres pays. Et la France, intellectuellement, s'est appauvrie. Elle s'est appauvrie en artisans et en connaissances. Ils sont allés enrichir d'autres. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est que durant la période de persécution des 1260 ans, ce qu'on faisait, c'est qu'on interdisait les Saintes Écritures. Tant les autorités civiles que religieuses interdisaient d'avoir ça, de lire ça. Ou bien ceux qui lisaient, on falsifiait le témoignage. On faisait dire à la Bible ce qu'elle ne disait pas, ou on essayait de détourner les gens de trouver que c'était important. C'est comme si on détournait leurs esprits. Et puis, la persécution. Et puis, donc, il y a eu un appauvrissement de la richesse intellectuelle et industrielle. Donc, c'est souvent, par exemple, on a vu ça dans la Bible, lorsque Nebuchadnezzar a déporté Jérusalem à Babylone, ce qu'il a fait, il a pris tous les rois, tous les nobles et tous les gens de métier. Il les a pris, ils les ont emmenés en captivité. Fait qu'il ne reste plus personne dans le pays pour le développer. Donc, c'est une tactique militaire pour appauvrir un pays. Lui, il a fait ça, mais la persécution qui a fait fuir ces gens-là donne le même résultat. Et ce qui est arrivé aussi, c'est qu'il y a eu l'abolition de la religion chrétienne et la suppression des Écritures. Ce qui est arrivé, en fait, c'est que la France s'appauvrit intellectuellement et industriellement, mais les nobles et les riches continuaient à vivre la belle vie, au détriment des paysans. Et ils les taxaient beaucoup. Et le clergé ne payait pas d'impôts, la noblesse ne payait pas d'impôts. Et à ce moment-là, ça a commencé à révolter le peuple. Et le peuple, la révolte a continué. Et en plus, il est arrivé certaines choses, comme par exemple en 1788, il y a eu une famine. Pas une famine, mais les récoltes ont été mauvaises. Ce qui fait que le peuple avait faim. Ensuite, les coffres de l'État étaient vides parce que les Français avaient aidé les Américains à acquérir leur indépendance. Il y a eu une période où est-ce que l'Amérique commençait à gagner son indépendance et la France a aidé dans le financement. Ce qui fait que la France n'avait pas d'argent, ils n'avaient pas eu des bonnes récoltes, le peuple avait faim, mais la noblesse, le clergé continuait à vivre dans le luxe. Et là, les gens se sont révoltés. Et ça a donné naissance à ce qu'on a appelé les États généraux. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une espèce de gouvernement qui était comme représenté par des gens de la noblesse, des gens du clergé, puis comme un autre parti pour que ça soit comme un peu comme plus démocratique. Et ces États généraux vont devenir l'Assemblée nationale par la suite. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'officiellement, c'est-à-dire, il y a une décision qui a été prise où on a dit que Dieu n'existait pas. Et on a supprimé les Écritures. Ça, c'était en 1793. Jean-Michel nous en avait touché un mot. Et ils ont officiellement déclaré l'inexistence de Dieu et l'instauration du culte de la raison. Parce qu'ils étaient, en fait, fatigués de l'abus religieux qu'ils subissaient en voyant le clergé vivre très largement. Donc, quand ils ont commencé à rejeter en bloc, ils ont aussi rejeté la religion. Lors de la réforme, ils se sont pris au mouvement protestantisme. Mais le fait que le clergé avait beaucoup parlé contre le protestantisme, ça s'est finalement retourné contre eux. Et là, ils voulaient plus rien savoir de la religion, donc ils ont déclaré l'existence de Dieu et qu'ils n'allaient adorer personne d'autre si ce n'est la raison. Donc, c'est l'athéisme. Et puis, la pauvreté de la population en général, tandis que l'Église et l'État continuent de prospérer aux dépens de la classe ouvrière. Donc, ça, c'est les éléments déclencheurs de la révolution française. C'est le peuple s'est révolté contre les abus. Tandis qu'eux, ils croupissaient dans la pauvreté. Ça, c'est une image pour illustrer un petit peu la Révolution française. Je pense que c'est peut-être ce qu'ils appelaient la prise de la Bastille. Ensuite, comme j'avais dit, l'écrasante injustice mène à la rébellion de la classe ouvrière. Et ça va instituer ce qu'on appelle le règne de la terreur. Donc, la Révolution française a commencé en 1789, mais comme a dit Jean-Michel, l'apogée de l'athéisme, au cours de la Révolution française, ça a été entre 93 et 98, et on appelait ça le règne de la terreur, parce que la fureur avec laquelle on avait vu les protestants persécutés, c'est avec cette fureur que la noblesse et le clergé, maintenant catholique romain, ont été persécutés par la classe ouvrière. Donc, c'est dans cette époque-là que le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette ont été guillotinés, etc. Donc, on l'appelait le règne de la terreur parce qu'il y a énormément de sang qui a coulé. Et les gens ont vraiment fait le lien que c'est le retrait des Écritures. Donc, c'est comme s'il n'y avait plus de foi ni loi qui a causé ça. Après 3 ans et demi, ils ont réinstauré la libre pratique du culte parce que c'est une des choses qu'ils avaient faites. Ils prenaient les Bibles et ils les brûlaient publiquement. Ils ont interdit tout culte public en France et l'interdiction de la Bible. Donc, tout ça a été comme réinstauré 3 ans et demi plus tard. Et ce qui est arrivé aussi, comment tout ça a pu se faire, malgré qu'ils ont réinstauré la Bible, ils ne voulaient plus de pouvoir religieux. Alors, ce qui est arrivé, Napoléon, avec ses armées, sont entrés à Rome en 1798. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris le pape, ils l'ont emmené en exil à Valence, en Italie, et là, il est mort en exil. Et en mourant, c'est comme si le système papal était tombé. Et c'est de cela que parle l'Apocalypse 13, donc il parle de la blessure mortelle. C'est-à-dire que son pouvoir de dominer a subi vraiment un arrêt. Il y a eu d'autres papes qui ont été élus après, mais il n'y a jamais eu cette force qu'il avait avant de pouvoir juste prononcer des jugements, aller chez les gens, inquisition, etc. Ça a été perdu parce qu'on avait déclaré qu'on ne veut plus du pouvoir religieux. Puis même à une époque, ils avaient même l'autorité de révoquer des rois. Ils ont humilié des rois, ils excommuniaient même des rois, tellement ils étaient rendus simples. Oui, oui. Oui, il y a des moments donnés où est-ce qu'il prononçait l'anathème sur des rois, puis le roi, là, il devait redevenir, demander pardon à genoux pour être réintégré, parce que la religion était vraiment forte et le peuple avait peur de la colère de Dieu, donc de faire quoi que ce soit qui allait à l'encontre de l'Église qui était considérée comme infaillible. Ce qu'on nous dit, c'est que finalement, ce que l'Église a infligé lui est revenu comme un boomerang. C'est ce que la citation suivante dit. La persécution dont le clergé de France avait donné l'exemple pendant tant de siècles, notamment pendant le massacre de la Saint-Barthélemy et l'opposition à la réforme, se retournait maintenant contre lui avec une redoutable rigueur. Le sang des prêtres ruisselait sur les échafauds. Les galères et les prisons autrefois pleines de huguenots, donc c'était ces peuples qui étaient isolés comme les Vaudois, les Albigeois, les huguenots, c'est eux qui avaient été persécutés à l'époque. On nous disait que maintenant, les galères et les prisons, autrefois pleines de huguenots, se peuplaient maintenant de leurs persécuteurs. Enchaînés à leurs bancs et tirant l'aviron, des prêtres expérimentaient à leur tour les supplices qu'ils avaient si gaiement infligés aux 12 hérétiques. Tragédie des siècles, pages 304 et 305. C'est lors de la Révolution française où la loi de Dieu fut ouvertement supprimée par l'Assemblée nationale et surtout sous le règne de la terreur qui suivit, que chacun put voir les conséquences de l'abandon des préceptes divins. Et ce qui est important, c'est que dans la parole de Dieu, on nous dit « Ce qui est lié sur la terre sera lié dans les cieux ». Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas des gens qui opposaient à la parole avant. Mais quand on passe une loi officielle pour dire que Dieu n'existe pas, c'est comme si vraiment on manifeste l'esprit du moment, on manifeste la position officielle de l'humanité. C'est pour ça que dans les derniers temps, il y a beaucoup de gens qui s'opposent à Dieu présentement. Mais on ne peut pas dire qu'un tel a reçu la marque de la bête, un tel l'a pas, parce qu'il n'y a pas de loi qui oblige les gens. Rappelez-vous dans Daniel, c'est quand il y a des décrets qui ont été passés pour adorer la statue, ça c'est des décrets officiels, des décrets pour dire qu'il ne faut pas adorer d'autres dieux que Darius, etc. On peut s'opposer à la loi de Dieu, mais quand un gouvernement passe des lois, c'est comme s'il dit « voici notre position officielle ». On nous dit que le monde épouvanté à la vue des débordements qui avaient suivi la répudiation de l'Évangile, reconnu la nécessité de la foi en Dieu et en sa parole comme base de la vertu et de la morale. Parce que c'est à peu près dans cette époque, par exemple, que par exemple, a été déclarée l'union libre, que c'était le sacrement de l'adultère, l'union libre. C'est dans ces fameuses périodes de Révolution française que toutes ces choses-là, les codes moraux, que la France a vraiment dégringolé encore plus bas dans sa moralité. C'est pour ça qu'on l'appelle, dans un sens spirituel, Sodome dans Apocalypse 11. Donc, juste pour récapituler, on voit que pendant les 1260 jours prophétiques, qui sont 1260 années littérales, la Bible, elle est proscrite ou falsifiée. On encourage beaucoup la superstition, la vente des indulgences et toutes sortes de choses comme ça, et beaucoup de persécutions. Mais le fait que le système romain va officiellement, je vais pas dire tomber, mais subir une blessure comme mortelle, par la capture du pape, son envoi en exil et sa mort, qui va affaiblir de façon significative l'Église romaine, ça termine à la Révolution française. Et c'est ce que j'entendais par la chute de la papauté. Alors, à ce moment-là, il va se passer beaucoup de choses, parce que comme elle contrôlait la diffusion de la parole de Dieu, etc., il n'y a pas beaucoup de choses qui se faisaient. C'est vraiment de peine et de misère qu'étaient conservées des Bibles et qu'elles étaient transmises vraiment secrètement aux gens. Mais à partir du moment où on a repermis la libre circulation de la Bible, beaucoup de choses vont arriver. Il va y avoir le renouveau de la liberté religieuse, et Jean-Michel en a parlé un petit peu. C'est à cette époque-là que beaucoup de sociétés bibliques vont se fonder. La Société biblique britannique et étrangère en 1804. En 1816, la Société biblique américaine et la Société biblique protestante de Paris en 1818. Et c'est intéressant parce qu'à cette époque-là, justement, les gens ont tellement été habitués à une religion de routine. Les gens ressentaient beaucoup, à la fin du 18e siècle, donc vers la fin des années 1700, un besoin de ce qu'ils ont appelé une religion expérimentale. C'est comme si c'est quoi la vraie religion? Et il y a eu un renouveau de ce qu'on appelle le développement des missions étrangères. Oui, Winnie?
La société biblique,
c'est elle qui imprimait les Bibles et les diffusait. Les dictionnaires, toutes les encyclopédies, commentaires bibliques, etc. Oui.
Une chose, je ne sais pas si tu as l'air, mais c'est comme 1834, il me semble, c'est la signation de la Charte des droits et libertés aux États-Unis, qui est très importante. C'est ce qui, en fait, nous donne notre monde de liberté aujourd'hui qu'on connaît, droit de religion. religion, droit de presse, droit de liberté de conscience, tout ça. C'est dans les mêmes périodes.
Oui, tout à fait. Mais moi, je ne connais pas cette date-là. Mais c'est sûr que les États-Unis, la première chose qu'ils se sont dit, à cause de ce qu'ils avaient vécu, c'est que l'État et l'Église doivent être séparés. Parce que État plus Église donne persécution. Mais ce que la prophétie nous enseigne, c'est que ça va revenir. C'est qu'ils vont répudier ce pourquoi même ils ont lutté pour créer les États, un État libre. Ou est-ce que tu as là, on ne peut pas te forcer d'une religion et tu as la libre conscience d'adorer qui tu veux. Mais on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui permettent toutes ces choses-là. Alors les missions étrangères vont prendre beaucoup d'essor. Alors à ce moment-là, puisqu'il y a beaucoup de sociétés bibliques qui commencent à diffuser la Bible, bien, l'accessibilité de la Bible va augmenter. Et une autre chose va aider à la diffuser. Parce que pendant des siècles et des siècles, c'est à la main que les gens copiaient la Bible. Donc avoir une Bible, là, c'était pas rien. Il y avait beaucoup de labeur derrière. Il n'y avait pas de photocopie. Et puis l'invention, lors de la révolution industrielle, la machine à la vapeur va changer beaucoup de choses. Parce que l'imprimerie existait depuis le 15e siècle. Gutenberg, dans les années 1440, avait inventé l'imprimerie. Mais c'était un processus qui était quand même long. Mais avec la machine à la vapeur, ce qui va arriver, c'est que la production de l'imprimerie va se mécaniser, s'industrialiser. Donc, la production de masse va pouvoir commencer. Et les gens vont vraiment pouvoir imprimer beaucoup plus d'exemplaires. Donc, non seulement la Bible devenait disponible, mais elle pouvait être produite en plus de quantité rapidement. Et on nous dit que à cette époque-là, il y avait à peu près l'impression des écritures en 50 langues lors de la formation des sociétés bibliques. Donc, l'accessibilité de la parole a explosé. Et finalement, puisque la Bible était beaucoup plus accessible, elle a aussi commencé à être plus compréhensible. Et là, je vais partager avec vous différentes choses qui se sont passées à travers le monde. Et ça, c'est vraiment la partie intéressante. Je vais juste vous lire une petite citation tirée de Tragédie des siècles, page 387. Comme la réforme du 16e siècle, le mouvement adventiste a éclaté simultanément dans différentes parties de la chrétienté. Si vous lisez l'histoire de la réforme protestante, vous voyez que dans plusieurs pays, à peu près en même temps, les gens redécouvraient, par exemple, le message de le salut en Jésus-Christ seul. Fait que ce qu'on nous dit, c'est que comme la réforme au 16e siècle, de l'époque de Luther, le mouvement adventiste a éclaté simultanément dans différentes parties de la chrétienté. En Europe et en Amérique, des hommes de foi et de prière se sont sentis poussés à étudier les prophéties. Dans divers pays, des groupes isolés de chrétiens sont parvenus, par la seule étude de la parole de Dieu, à la conclusion que le retour du Christ est à la porte et que la fin du monde, que la fin de toutes choses est proche. Je vais vous parler de quelques-uns de ces personnages-là. Je vais commencer avec un qui s'appelle Joseph Wolff. C'est un Allemand juif. Et son père, je pense, est rabbin. Mais il aimait entendre des prédications chrétiennes dans des églises, il se mettait comme dans la fenêtre dehors, puis il entendait la prédication. Puis un jour, en entendant une prédication, il a été convaincu, à l'âge de 7 ans, que Jésus-Christ était le Messie. Et puis, justement, un rabbin, pas un rabbin, mais il était fier du fait que le Messie devait venir et ensuite rétablir Jérusalem dans sa gloire première, parce que c'est ce qu'on lui enseignait. Puis un jour, justement, un pasteur chrétien, si je ne me trompe pas, lui a dit, écoute, mon gars, va lire Ésaïe 53. Tu vas voir que ce Jésus-là, c'est comme ton peuple a crucifié. C'est lui qui est le Messie. Puis il est allé lire Ésaïe 53, puis il a été convaincu. Mais en parlant avec ses parents l'ont comme dit, arrête de parler de ces choses-là. Ce qui fait qu'à l'âge de 11 ans, il va quitter la maison pour trouver sa propre foi, sa propre religion. Là, de juif qu'il est, il va devenir catholique. Et plus tard, il va devenir protestant anglican. Et là, il commence à lire la parole de Dieu, puisque dans le protestantisme, on proclame la sola scriptura. Et en lisant la Bible, particulièrement Matthieu 24, il découvre l'annonce de la deuxième venue. Non seulement que Jésus est venu une première fois, mais qu'il doit revenir. Il découvre ça en étudiant Matthieu 24, ainsi que Daniel et les événements des derniers jours de Matthieu 24. Et là, il va entreprendre des voyages parce que ce qu'il a découvert, il trouve ça tellement fort qu'il va commencer à voyager pour le partager. Il va faire retentir le message du jugement et l'annonce de l'approche du règne du Messie. Et un des endroits où est-ce qu'il va se découvrir, il va s'en aller, c'est au Yémen. Le Yémen, c'est là où il y a l'étoile. Et il va rencontrer des Arabes. il va découvrir une peuplade. C'est une peuplade qui est isolée. Et il va découvrir que ce peuple-là dit qu'ils sont en train d'attendre des grands événements aux alentours de 1840. Pourquoi? Parce qu'ils ont un livre qui s'appelle la Sira, S-E-E-R-A, et que dans ce livre qu'ils possèdent, ces Arabes-là, la seconde venue et le règne glorieux de Jésus est annoncé. Et ils attendent des événements quelque part vers 1840. Et là aussi, il va trouver même dans ses voyages, parce que ces gens-là, il a trouvé parmi ces Arabes-là des descendants de Rekab et de la tribu de Dan, des Israélites. Un autre point intéressant, c'est qu'il y a un missionnaire qui va aller en mission près des peuples tartares. Je pense que c'est un missionnaire européen ou américain, je ne me rappelle pas. Et il va rencontrer un peuple tartare. Le peuple tartare, j'ai mis une étoile approximative là, mais ça s'étend comme la Turquie, ça peut même aller comme vers la Mongolie, tout ça. Donc, c'est plus des peuples-là de l'Asie, un petit peu. Et il va rencontrer un prêtre tartare qui, lui, selon des prophéties qu'ils étudient, croit que Jésus revient vers 1844. Puis il dit au missionnaire, « T'es-tu au courant? » Puis le missionnaire lui dit, « Non, j'ai jamais entendu parler de ça. » Et justement, ce prêtre tartare trouve que si toi, tu es chrétien, puis tu ne sais pas que Jésus revient, c'est inacceptable. Mais eux, ils avaient découvert ça dans des prophéties. Du côté de l'Angleterre, il n'y a pas eu nécessairement des prédicateurs principaux, mais dès 1828, il y a environ... il n'y a pas de date qui est calculée, mais tu as une proclamation générale de l'Évangile du Royaume par environ 700 pasteurs de l'Église anglicane qui proclament le retour de Jésus. Et plus tard, il y a un Anglais qui a été aux États-Unis, qui pendant le mouvement aux États-Unis qui va se passer, va recevoir des enseignements, il va revenir en 1842 et va prêcher le proche retour de Christ, ce qui va collaborer, ou plutôt contribuer à l'annonce du proche retour de Christ en Angleterre. Si on se déplace en Amérique et qu'on va en Amérique du Sud, il y a un jésuite espagnol qui s'appelle Lacunza. Et il va découvrir la vérité sur le prochain retour du Christ au 18e siècle. Je ne sais pas comment, mais il lisait la Bible, puis en étudiant, il est arrivé à ces conclusions-là. Mais étant donné qu'il était jésuite, il avait peur d'être censuré par Rome, il a pris un pseudonyme. Il s'est appelé Rabbin Ben Ezra, puis il a écrit des livres qui parlent de ce prochain retour. Et c'est comme ça qu'il a échappé à la censure de Rome. Puis là, son livre va se rendre jusqu'en Angleterre. Il va être traduit en anglais, puis ça va aussi contribuer à augmenter l'intérêt de cette doctrine du proche retour de Christ. Si on retourne en Europe, il y a un personnage qui s'appelle Bengel, qui a vécu au 18e siècle, dans les années 1700, et qui est convaincu, en étudiant Apocalypse 21, qu'il y a un retour de Christ. Et c'est intéressant parce que c'est l'étude des prophéties qui l'amène à lui, il va étudier les prophéties, puis calculer les dates prophétiques, trouver les mêmes principes, puis il va arriver à une date qui est proche de 1844, près de quelques années, qui est convaincu que le retour de Christ est pour cette date-là. Et puis, ce qui va arriver, c'est que Bengel, ses écrits vont se répandre dans la chrétienté, et le mouvement va se poursuivre après sa mort en Allemagne et même dans des pays voisins. Et ce qui est intéressant, c'est que des gens vont émigrer d'Allemagne vers la Russie, et à ce moment-là, ils vont devenir des croyants qui vont attendre le retour de Christ là-bas. Si on va en France et en Suisse, il y a un personnage du nom de Louis Gossen qui vient de Genève. Et puis, c'est un pasteur et un théologien. Mais c'est un pasteur et théologien qui est rationaliste. C'est-à-dire qu'il fallait, comme tout s'explique, il faut qu'il y ait des explications à tout. Et à cause de ça, il était ce qu'on appelle un sceptique. Donc, il était un petit peu sceptique par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la religion, malgré qu'il était un pasteur et tout ça. Mais les enseignements du rationalisme le laissaient insatisfait. Fait que ce qu'il va faire, il va commencer à... Cette insatisfaction, ça va le pousser à étudier les Écritures. Fait qu'il va commencer à étudier. Et il va tomber sur un livre d'un auteur qui s'appelle Rollin, qui s'appelle « L'histoire universelle », et où notamment va être décrite Daniel 2, la statue où les royaumes se succèdent. Donc, la lecture de ce livre va beaucoup l'impressionner à comprendre que, waouh, l'histoire est contrôlée par Dieu, et il va étudier les Écritures. Et il va reconnaître leur... et justement, c'est cette histoire universelle de Rollin et son exposé de Daniel 2 qui va l'amener à reconnaître l'autorité des Écritures comme ayant vraiment autorité pour expliquer l'histoire. Et puis là, à ce moment-là, ça va attirer son attention sur Daniel 2. Il va commencer à étudier les prophéties. Et de fil en aiguille, Daniel 7, Apocalypse, etc. Mais comme il y avait beaucoup de réticence à l'enseignement de la parole, ce qu'il va faire, il va passer par des enfants, parce que les adultes ne reçoivent pas vraiment les enseignements, donc il va comme les enseigner à des enfants. Et pourquoi il a fait ça? C'est pour dire, mais si des enfants sont capables de comprendre les prophéties, parce qu'on avait dit aux gens, les livres, ce n'est pas quelque chose qu'ils pouvaient comprendre, fait que les prophéties encore moins. Fait qu'il expliquait les prophéties aux enfants qui allaient à la maison, les répétaient à leurs parents. Puis leurs parents disaient, mais comment vous comprenez ces choses-là? Et ça, ça poussait les parents à commencer à étudier la Bible pour eux autres. Et là, le message va se répandre au-delà de Genève, parce que à Genève, là où il a vraiment plus enseigné, il y a beaucoup d'étrangers qui sont de passage et qui retournent dans son église où il enseigne et qui retournent dans leur pays. Donc, ça va aider à diffuser le message également. Et puis, on va publier ses leçons. Ensuite, moi, j'ai beaucoup aimé celui-là. En Scandinavie, il y a eu un phénomène vraiment étrange. C'est le phénomène des enfants prédicateurs. Donc, il y a des gens qui prêchaient la parole, mais comme ça a donné beaucoup de persécutions, les gens étaient emprisonnés. Donc, les gens ne prêchaient plus autant. Et ce qui est arrivé, c'est un phénomène bizarre, c'est que des enfants âgés, généralement, entre 6 ans et 8 ans, se mettaient à prêcher et à dire « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car le jour de son jugement est venu. » Et la manière comment ils prêchaient, ce n'était pas naturel. Le ton de leur voix changeait, la manière qu'ils se tenaient, on voyait qu'ils parlaient sous une autre influence. Et ce qui arrive, c'est que comme ils étaient mineurs, on ne pouvait pas les mettre en prison. Donc, ils ont pu, c'est comme ça que le message sur le retour de Christ a pu être propagé. Et les gens qui les entendaient ont été poussés à aller étudier la parole de Dieu. Donc, c'est un phénomène différent. Mais c'était évident qu'il y avait un pouvoir supérieur qui prenait possession de ces enfants quand ils se mettaient à prêcher. Et ça donnait un nouvel intérêt d'aller sonder les Écritures. Donc, ça, c'est pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé à travers le monde. Donc, simultanément, dans des endroits où les gens n'étaient pas nécessairement connectés, il y avait plusieurs personnes qui, en étudiant les prophéties, arrivaient à peu près à la même conclusion, c'est qu'aux alentours des années 1840, 1844, il y a un grand événement qui arrive. Mais c'est aux États-Unis que ça s'est le plus manifesté, et c'est là que entre le fameux personnage dont vous avez peut-être entendu parler, qui est William Miller. William Miller, c'était, il est né en 1782 dans l'État de New York. C'était un cultivateur de profession. Il est né dans une religion chrétienne, mais on va voir que ses fréquentations vont l'amener à délaisser un petit peu ses croyances. Ce qu'on dit, tous les gens qui ont connu Miller disaient la même chose de lui, que c'était un homme qui était caractérisé par une grande soif de connaissance, un amour de l'étude et un esprit investigateur. Et que c'était un gars qui avait du jugement. On nous dit qu'il avait une moralité irréprochable, c'était un honnête homme, il était industrieux, c'est-à-dire travaillant et très généreux. Mais il a commencé à avoir des doutes sur la parole de Dieu à cause des gens avec qui il se tenait. Il se tenait avec des déistes et il va devenir lui-même déiste pendant 12 ans. Et le déisme, c'est pas que tu crois pas que Dieu existe, mais c'est que Dieu, il a créé le monde, il a laissé ça, puis il s'est retiré, puis il n'intervient pas. Fait qu'il reste là. Donc, il n'y a pas de connexion avec le monde qu'il a créé et le Créateur. Et ça, ça l'a amené à douter vraiment de Dieu à cause de toutes les choses. Mais c'est quoi ce Dieu qui n'intervient pas? Et à l'âge de 34 ans, il va expérimenter une conversion. Il nous la raconte en ces termes. La perspective de l'anéantissement avait pour moi quelque chose de lugubre et de glacial, tandis que celle d'un jugement futur équivalait à la perdition certaine de tous les hommes. Le ciel était d'airain au-dessus de ma tête, la terre de fer sous mes pas. Qu'était-ce que l'éternité? Pourquoi la mort régnait-elle? Plus je raisonnais, plus je voyais s'éloigner les solutions. Plus je réfléchissais, plus mes idées étaient confuses. Je tentais de ne plus y penser, mais je n'en étais pas capable. Aussi étais-je vraiment malheureux, mais sans savoir pourquoi. Je murmurais, mais sans savoir contre qui. Je discernais le mal, mais je ne savais ni où, ni comment trouver le bien. J'étais désolé et désespéré. Soudain, dit-il, la pensée d'un sauveur se présenta vivement à mon esprit. Il me sembla comprendre qu'il existait un être assez bon et compatissant pour faire lui-même l'expiation de nos transgressions et porter la peine de nos péchés. Si vous lisez un petit peu l'histoire de Luther, là, ça ressemble un peu. C'est-à-dire que c'est comme si on ne voit pas de solution, tout à coup, le salut par la grâce. Je sentis aussitôt combien un tel être serait aimable et il me parut que je pourrais sans hésiter me jeter dans ses bras et me confier en sa miséricorde. Constatant d'ailleurs qu'en dehors des Saintes Écritures, je ne trouverai aucune preuve ni de l'existence de ce Sauveur, ni de sa vie à venir, j'en commençai l'étude. À partir de ce moment-là, il va commencer l'étude méthodique de la Bible en 1816. Et en 1816, c'est l'époque où les sociétés bibliques américaines a démarré. Voici comment il a procédé. Ce qu'on apprend, c'est que son intérêt va s'accroître lors de l'étude des livres de Daniel et de l'Apocalypse. Voici comment il étudiait. Premièrement, il a juste pris la Bible et il s'est passé de commentaires. Il n'a même pas étudié de commentaires bibliques parce qu'il est parti sur le principe d'interprétation que la Bible s'explique elle-même. Alors, il a commencé à Genèse. Il a étudié verset par verset. Et il ne passait pas à un autre verset jusqu'à ce qu'il ait compris le verset. Donc, il a juste utilisé une concordance pour trouver les textes qui étaient reliés entre eux, pour comparer les Écritures avec les Écritures. Et quand il trouvait toutes les références dans la Bible par rapport à un verset donné, et que ça devenait clair pour lui, il considérait que la difficulté de compréhension était résolue, et il passait au verset suivant. Donc c'est comme ça qu'il a étudié la Bible. Donc il ne s'est pas basé sur ce que d'autres ont écrit, il a juste pris une concordance pour comparer, juste savoir tel texte va référer à tel autre texte dans la Bible, et c'est tout. Et puis, c'est comme ça qu'il a étudié. Il est tombé dans Daniel et Apocalypse. Et il va découvrir que la croyance populaire de millénium avant le retour de Jésus n'est pas biblique. Parce qu'on enseignait ce fameux royaume universel de paix qui doit venir avant que Jésus revienne. Mais en étudiant Daniel et Apocalypse, et probablement Apocalypse 20, qui parle de la première et de la deuxième résurrection, il a vu que le millénium n'était pas biblique. Donc, c'est juste la ligne du temps pour vous montrer où se situe William Miller, si vous voulez, dans la période du grand réveil religieux suite à l'affaiblissement du pouvoir romain. Et c'est en lisant justement ça qu'il commence à s'intéresser à ce que la Bible dit sur le retour de Jésus-Christ, notamment Daniel 8, 14. Pourquoi? Parce qu'on nous dit ceci. Dans Daniel 8, 13, 14, il va lire ceci. « J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » En parlant de ce fameux sanctuaire qui avait son imitation terrestre, mais qui en fait était une imitation du céleste. Et cette vision-là, l'ange va dire à Daniel, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Donc, la vision des 2300 soirs et matins, qui se rapporte à des temps éloignés, ça concerne un temps qui sera la fin. Et la vision des soirs et des matins, 2300, dont il s'agit, est véritable. « Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. » Et ce qui est arrivé, c'est que les gens, c'était une croyance populaire que le jugement final... que la purification du sanctuaire, c'était le jugement final de Dieu. Et comme le jugement final de Dieu, c'est de venir détruire la terre par le feu, pour eux, ils ont interprété que la purification du sanctuaire, c'est que la terre, ils pensaient que la terre était le sanctuaire de Dieu, était le sanctuaire, et qu'il allait être purifié par le feu. Donc, c'est ça qui l'a convaincu en 1818. Donc, après 2 ans d'études, il ne faisait que ça, à étudier systématiquement la Bible. Il arrive à la conclusion que le jugement final de la terre par le retour de Jésus-Christ est pour 1844, comme plusieurs autres personnes qui avaient étudié la Bible ailleurs dans le monde, mais qui eux aussi croyaient que le sanctuaire était la terre et que c'est ça qui devait être purifié. Et la proclamation du message du jugement d'Apocalypse 14, 6 et 7. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il va étudier pendant 2 ans, mais il trouve que les conséquences de ce qu'il découvre sont tellement énormes qu'il ne va pas prêcher. Il veut juste être sûr qu'il ne s'est pas trompé dans ses conclusions. Donc, il va prendre un autre 3 ans pour reviser toutes les conclusions auxquelles il s'est arrivé, pour repasser point par point, pour s'assurer qu'il n'y a pas fait d'erreur. Un peu comme en mathématiques, là, quand vous faites un problème raisonné, puis après ça, là, vous repassez toute votre démarche pour vous assurer. Il va faire ça pendant un autre 3 ans. Il est quand même convaincu, mais il n'est pas prêt à prêcher. Fait que pendant 9 ans, il va garder ça pour lui. Donc, son attention a été attirée, justement, sur Apocalypse 14, les versets 6 à 7, qui dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Donc, jugement, purification du sanctuaire, la terre va être détruite. Donc, c'est Daniel 8, 14, et beaucoup Apocalypse... Daniel 8, verset 14, et beaucoup Apocalypse 14, mais ce qu'on nous, on appelle le message des trois anges qui l'ont convaincu de la proximité du retour de Jésus prévu pour 1844. Et là, c'est là qu'on dit... Donc, tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent, c'est pour résumer à ça. On dit, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Fait qu'on a vu que lorsque le pouvoir papal a été affaibli et qu'à la fin de la Révolution française, on a rétabli la libre circulation de la Bible, qu'on a rétabli le libre exercice de la foi, Ça a donné le renouveau religieux. La Bible est devenue plus accessible et plusieurs l'ont lu et la connaissance a augmenté. Et puisque la connaissance a augmenté, que les gens ont pris conscience de vérité, ils se sont sentis obligés de les proclamer. Et on peut voir ça à travers tout ce qui s'est passé à travers le monde. Donc la prophétie a trouvé son accomplissement dans l'histoire. Littéralement, au temps de la fin, des événements se sont arrangés qui ont permis que plusieurs puissent lire et la connaissance a augmenté des suites de la lecture et de l'étude approfondie des prophéties. Donc c'est de là que le mouvement adventiste prend son origine. Si on remonte, ça remonte même depuis la réforme. Et il y a eu des événements qui se sont enchaînés qui ont amené au grand réveil religieux dont est sorti le mouvement adventiste. Ce qui s'est passé en 1844 et après, c'est une autre histoire. Mais c'est important d'établir les fondements. Et j'espère qu'avec cette présentation, vous pouvez voir que ce n'est pas des hommes qui se sont levés pour dire « les adventistes, ils ont la vérité » ou quoi que ce soit, mais que le Seigneur revient. Et de la même manière qu'il s'est suscité un messager pour préparer sa venue, il devait le faire encore. Parce que le Seigneur ne fait rien sans avoir avisé, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets aux prophètes. Et vous faites partie de ce mouvement. Donc, vous devez décider, est-ce que vous pensez que c'est l'œuvre d'un homme? Parce que la parole de Dieu nous dit, si c'est l'œuvre d'un homme, elle se détruira. Mais si elle est de Dieu, personne ne pourra l'arrêter. Et c'est ce livre-là qui a maintenant aussi pour titre Le Grand Espoir que vous retrouvez dans la tragédie des siècles, qui raconte l'histoire de tous les serviteurs fidèles de Dieu, depuis l'établissement de l'Église chrétienne jusqu'au retour de Christ et après. C'était la présentation que j'avais pour vous.